VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudiech et Anne Albertson avec vous, au sommaire de ce mercredi 24 décembre 2015.
Mali, affaire des bérets rouges, le général Sanogo risque la peine de mort.
Guinée, le gouvernement sortant remet sa démission à Alpha Condé.
République centrafricaine, vers un nouveau report de la date des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre.
Nigeria, Nnamdi Kanu, le leader indépendantiste Biafra, doit répondre de nouveaux chefs d'accusation.
Et Nigeria toujours, l'ONG Human Rights Watch accuse le gouvernement nigérian aurait assassiné environ 300 membres de l'Islamic Movement of Nigeria.
À venir, l'économie et le sport, mais tout de suite, c'est le journal.
Au Mali, le général Amadou Sanogo sera jugé pour l'affaire dite des bérets rouges. Incarcéré depuis deux ans, il encourt la peine de mort. Le point avec Arzuma Compaoré.
La cour d'assises malienne jugera le chef de l'ex-junte malienne accusé d'assassinat et de complicité d'assassinat avec les généraux Yamoussa Kamara, ancien ministre de la Défense, et Dayirou Dembélé, ex-chef d'état-major des armées. La chambre d'accusation a toutefois prononcé un non-lieu pour 10 des 28 inculpés dans cette affaire. Selon le code pénal malien, le général Sanogo risque la peine de mort. Rappelons qu'après le coup d'état du 22 mars 2012, les bérets rouges avaient tenté un contre-coup d'état un mois plus tard, entraînant une sanglante répression de la part des putschistes. Ces événements avaient précipité la déroute de l'armée face à la rébellion Touareg et aux groupes djihadistes dans le nord du Mali, qui étaient alors tombés sous la coupe de groupes liés à Al-Qaïda. Suite au lancement en janvier 2013, sur initiative française d'une intervention militaire internationale qui se poursuit toujours, les djihadistes avaient été en grande partie chassés. Cependant, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères.
Le premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana a remis aujourd'hui la démission de son gouvernement au chef de l'État Alpha Condé, selon un communiqué de la présidence guinéenne. Le président de la République a salué le travail effectué par l'équipe sortante, lui demandant toutefois d'assurer l'intérim jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Alpha Condé, 77 ans, a été proclamé vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre, avec 57,84% des voix, devant sept autres candidats.
Au Nigeria, nouveau chef d'accusation contre le leader indépendantiste Biafra, Nnamdi Kanu, dont une cour avait ordonné la libération la semaine dernière. Les précisions de Michel Joseph.
Parmi les nouvelles charges retenues contre le séparatiste Biafra, celle d'appartenance à une organisation illégale. Détenu depuis le mois d'octobre par les services de sécurité nigérians, Nnamdi Kanu est l'un des fondateurs de l'organisation Peuple indigène du Biafra. Ce groupe interdit par les autorités nigérianes réclame l'indépendance du Biafra, région du sud-est du pays. Kanu dirige par ailleurs Radio Biafra, une station pirate véhiculant les idées des séparatistes biafrais. Lors de sa comparution mercredi, Nnamdi Kanu a refusé de répondre aux accusations, se disant persuadé qu'il n'aura pas un procès équitable devant la justice nigériane. Il avait bénéficié d'un non-lieu le 16 décembre, après avoir été relaxé des chefs d'accusation de conspiration et appartenance à une organisation illégale. La Haute Cour fédérale d'Abuja avait alors ordonné sa libération, mais il avait été maintenu en détention.
Au Nigeria toujours, selon l'ONG Human Rights Watch, les soldats de l'armée nigériane ont tué par balle au moins 300 membres de l'Islamic Movement of Nigeria, le mouvement islamique du Nigeria. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'organisation précise que les assassinats auraient eu lieu sans qu'il y ait eu de provocation préalable. Daniel Bekele, directeur de l'ONG pour l'Afrique, dénonce qu'il s'agit au mieux d'une réaction disproportionnée et au pire d'une attaque planifiée sur un groupe chiite minoritaire.
Les relations entre les autorités et l'Islamic Movement of Nigeria, qui milite pour l'instauration d'une république islamique à l'iranienne, tendues, ont donné lieu par le passé à des confrontations. L'armée nigériane, régulièrement accusée de violation des droits dans sa lutte contre Boko Haram, n'a publié aucun bilan officiel sur le nombre de victimes et a formellement démenti les accusations de Human Rights Watch. Le gouvernement a mis en place la semaine dernière une commission judiciaire chargée d'enquêter sur l'affaire. Selon Amnesty International, des centaines de personnes ont été tuées sans raison lors de combats contre les djihadistes. Et puis, le premier ministre de Guinée-Bissau, Carlos Correa, a échoué aujourd'hui à obtenir une majorité au Parlement pour sa déclaration de politique générale. Une partie des députés de son parti s'étant abstenue. Il a 15 jours pour revoir son projet politique de politique générale. Selon Souleymane Kassama, juriste et analyste politique, en cas de second échec, il doit purement et simplement démissionner, ce qui pourrait donner lieu à une nouvelle crise aux conséquences imprévisibles selon les observateurs. La Guinée-Bissau a connu plus d'un mois de blocage politique après le limogeage le 12 août du Premier ministre Domingos Simões Pereira par le président José Mário Vaz, élu en mai 2014.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ailleurs dans le monde, le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète des violations de cessez-le-feu, du cessez-le-feu introduit au Yémen en même temps que les pourparlers de paix. Les précisions d'Éric Maniarakiza.
Les 15 membres du Conseil ont, dans une déclaration de ce mercredi, exprimé leur profonde préoccupation au sujet du nombre de violations de la trêve durant les pourparlers de paix. La cessation des hostilités et le respect des résolutions onusiennes devraient conduire à un cessez-le-feu complet et permanent, ont-ils souligné. Le Conseil de sécurité s'est par ailleurs inquiété de la grave situation humanitaire qui continue de se détériorer au Yémen. Cette déclaration elle-même est intervenue à l'issue de sa session de mardi sur le Yémen, la première réunion publique sur le conflit yéménite depuis que celui-ci a éclaté il y a 9 mois. Une première série de pourparlers entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis a été ajournée dimanche et selon l'émissaire onusien Ismaël Ould Cheikh Ahmed, les deux camps se rencontreront de nouveau le 14 janvier.
Toujours à propos de l'EI, le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté son soutien aujourd'hui au gouvernement libyen d'Union nationale dans l'espoir de contrer la montée du groupe État islamique dans le pays et d'y juguler les migrations vers l'Europe. Le Conseil a signé à l'unanimité une résolution qui qualifie le gouvernement d'Union de seul gouvernement légitime de Libye et se déclare résolu à l'appuyer. Il a également demandé aux pays membres d'aider le futur gouvernement d'entente nationale qui sera basé à Tripoli, à restaurer la stabilité en Libye. La résolution demande également aux pays de la région de ne plus soutenir les institutions parallèles ou milices libyennes et de respecter l'autorité du gouvernement d'Union. Le Conseil de la présidence, créé par l'accord interlibyen, a 30 jours pour composer le nouveau cabinet et mettre en place les dispositions de sécurité nécessaires. Dès que ce gouvernement sera opérationnel, soulignent des diplomates, il pourra demander de l'aide à la fois pour combattre les djihadistes de l'EI installés en Libye et pour juguler l'émigration vers l'Europe à partir de ce pays.
Selon l'association Reporters sans frontières, un journaliste indépendant japonais, Junpei Yasuda, a été retenu en Syrie depuis 6 mois où il était parti enquêter, entre autres, sur l'exécution par le groupe État islamique de son confrère et ami Kenji Goto. Le gouvernement japonais s'est dit jeudi en quête d'informations. Junpei Yasuda aurait été enlevé quelques heures après avoir passé la frontière syrienne au début du mois de juillet 2015 par un groupe armé dans une zone contrôlée par le front al-Nosra. Les ravisseurs exigeraient une rançon, faute de quoi ils menacent d'exécuter ou de vendre leur otage à un autre groupe terroriste, affirme Reporters sans frontières, qui dénombre à ce jour 54 journalistes retenus en otage dans le monde, dont 26 en Syrie.
Le ministère américain du commerce extérieur a remis aujourd'hui un rapport annuel dans lequel, notamment, il épingle la vision chinoise du commerce, un frein au libre-échange selon l'administration américaine. Mesures inadéquates de protection de la propriété intellectuelle en Chine, qualifiées d'importantes barrières aux investissements et exportations américaines, protection de secrets industriels en Chine, dénoncée comme un grave problème, je cite, nécessité pour Pékin de renforcer la surveillance de son industrie pharmaceutique pour freiner la contrefaçon de médicaments, l'administration américaine égratigne les pratiques chinoises, mais aussi souligne et salue la volonté récente de réforme de l'économie dans une dynamique plus libérale. Une dynamique qui, si elle est poursuivie, affirme le ministère américain, pourrait permettre de lever les freins dans l'échange commercial entre les deux pays.
Enfin, le groupe hôtelier américain Hyatt Hotels a identifié récemment un programme informatique malveillant sur des ordinateurs utilisés pour le système de gestion des paiements pour plusieurs de ses sites, a-t-il annoncé mercredi. Il ajoute dans un bref communiqué avoir immédiatement lancé une enquête qui est toujours en cours, avoir embauché des experts en cybersécurité et avoir pris des mesures pour renforcer la sécurité de ces systèmes. Les consommateurs peuvent avoir confiance quand ils utilisent des cartes de paiement dans des hôtels Hyatt dans le monde, affirme le groupe, qui encourage néanmoins ses clients à surveiller de près leur relevé de paiement par carte et à prévenir leur banque s'ils repèrent des opérations suspectes.
Le Monde aujourd'hui et maintenant, c'est la Minute Éco avec vous, Claire Morin-Gibourg.
Au Burkina Faso, le comité interprofessionnel et l'Union nationale des producteurs de riz plaident pour une protection du marché local en vue de booster la production. Malgré une forte hausse, la production nationale a encore du mal à faire le poids sur le marché national, toujours dominé par le riz importé de Chine, de Thaïlande et du Japon. Des campagnes de promotion ont donc été organisées en vue de mieux faire connaître les produits de la filière rizicole nationale et endiguer les freins à la consommation de ce riz local. Air Côte d'Ivoire bientôt renflouée. Selon nos confrères de Jeune Afrique, l'État ivoirien, actionnaire principal avec 44% des parts, va injecter 20 milliards de francs CFA pour atteindre 55%. Les parts de la compagnie Air France KLM, qui étaient de 20%, seront-elles diluées pour revenir à 10,8% contre le règlement de 2 milliards de francs CFA. Un appel d'offres remporté en Afrique du Sud par Areva a été annulé par la justice. Un coup dur pour le géant français du nucléaire qui avait fait de ce contrat le symbole de sa renaissance à l'international. La Cour suprême d'appel sud-africaine a en effet annulé l'appel d'offres de la compagnie électrique Eskom qui avait octroyé à Areva le contrat de maintenance des réacteurs de la seule centrale nucléaire du continent à Keuberg, près du Cap. Un contrat à 5 milliards de rands, soit 300 millions d'euros.
Merci Claire. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, place au sport. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Anastasie. Un journal des sports évidemment très court, hein, puisqu'en ce réveillon de Noël, les sportifs observent la trêve un peu partout sur la planète sport.
Alors le Camerounais Ndjeh risque de s'absenter pour un certain temps.
L'attaquant de Tottenham, opéré d'un genou, pourrait être absent des terrains pendant près de deux mois ou un peu plus. C'est ce qu'a déclaré son entraîneur Mauricio Pochettino. Clinton Ndjeh, touché au ligament d'un genou contre Monaco en Europa League le 10 décembre dernier, a subi une intervention chirurgicale la semaine dernière. Anastasie, je vous laisse donner tous les résultats de la NBA la nuit dernière, le championnat de basket nord-américain.
Les Cleveland Cavaliers ont signé une sixième victoire consécutive face aux New York Knicks, 91 à 83. Orlando est venu à bout de Houston, 104 à 101. Et Indiana s'est incliné à domicile face à Sacramento, 108 à 106, troisième défaite consécutive.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man that could never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to be someone, yeah.
All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me.
drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down.
Anastasie Tudiache avec vous. Tout de suite, les dossiers du jour. En République centrafricaine, les législatives et la présidentielle du 27 décembre semblent compromises. L'autorité nationale des élections, l'ANE, a admis mercredi qu'elle est à court de temps et d'aucuns parlent déjà d'un autre report de ces scrutins. Reportage de notre envoyée spéciale à Bangui, Katrina Hodje. Récit Lionel Gaïma.
Pour la première fois depuis la prise de pouvoir par les ex-rebelles Seleka en 2013, les Centrafricains sont appelés à choisir un nouveau président et de nouveaux députés. Les scrutins qui doivent mettre un terme à la transition sont prévus dimanche 27 décembre, mais cette date pourrait bien changer. 1 700 000 électeurs se sont inscrits pour voter. Toutefois, beaucoup n'ont pas encore reçu leur carte, a fait savoir l'Autorité nationale des élections. Par ailleurs, les bulletins de vote qui sont arrivés cette semaine doivent être distribués à travers le pays, une tâche monumentale en République centrafricaine où les déplacements restent difficiles. Moruba Sakanga est un agent de service de la logistique de l'ANE.
C'est beaucoup plus le temps qui nous manque parce que bon, on a été obligé de comprimer les dates. Donc le temps nous manque pour réaliser les activités de manière méthodique. Mais enfin, on tient le temps quand même. Hein, malgré tout ça, on fait l'effort de tenir le temps.
Autre souci, la situation sécuritaire qui demeure préoccupante. Les groupes armés ayant renversé le président François Bozizé en mars 2013 sont toujours présents à Bangui, la capitale, en particulier dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Mahamad Saleh, un habitant du secteur, est impatient d'aller aux urnes.
Ils sont habitués dans le désordre, on ne sait jamais. Sinon, nous, on a besoin de voter pour que la paix ait. Mais ils ne veulent pas que la paix est là, on ne sait pas. Ils sont des ennemis de la paix. Ils sont là comme des insectes, des virus, on ne sait jamais. S'ils sont petits, ils ne peuvent rien faire.
Les problèmes logistiques seront particulièrement nombreux hors de la capitale centrafricaine, dans les zones à forte présence de milices, comme la ville de Karno, dans l'ouest du pays, ou Bossangoa, à quelques 200 km au nord de Bangui. Gilles Silla est le chef de service de sécurité de l'Agence nationale des élections.
Du côté du gouvernement, nous sommes limités. Alors notre sollicitude, c'est que la MINUSCA ou la communauté internationale mette des moyens de mobilité à la disposition des forces de sécurité intérieure.
La France, qui a déployé des soldats en RCA, tout comme la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, la MINUSCA, veulent que les élections se tiennent le 27 décembre comme prévu. C'est le seul moyen de sortir le pays de 3 ans de crise, soutient Guéré Mayanga, un chauffeur de taxi de Bangui.
Je peux vous dire que les élections peuvent ramener la paix, mais c'est le changement de comportement de tout et chacun. Le changement, la paix, c'est dans le cœur. Il faut savoir pardonner son prochain avec un pardon franc dans le cœur.
Le référendum constitutionnel de la semaine dernière a enregistré un taux de participation de 38%. Les électeurs n'ayant pas reçu leur carte avaient été autorisés à voter sur présentation de leur récépissé. Pour l'heure, il n'est pas clair si cette règle sera appliquée aux législatives et à la présidentielle de dimanche.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
La création du Front citoyen de 2016 République démocratique du Congo, la création du Front citoyen de 2016, lancée le week-end dernier à Kinshasa, fait l'objet de vives discussions dans les rues de Lubumbashi et se profile d'ores et déjà le spectre du tribalisme. Narval Mabila.
Depuis lundi, le Front discute à chaque coin de la rue du centre-ville de Lubumbashi du lancement le week-end dernier à Kinshasa du Front citoyen 2016. Les idées, les versions sont très chères dans les débats de la rue selon la tendance politique émotionnelle des choix rencontrés. Ils se sont exprimés à notre micro pour la plupart dans l'anonymat.
Front citoyen, en fait, c'est un regroupement, une association qui s'est créée à partir du fait que en République démocratique du Congo, il existe des stigmates démontrant suffisamment que le régime en place veut se pérenniser d'une manière illégale au pouvoir sans tenir compte des éléments pouvant effectivement provoquer l'alternant au pouvoir. Vous allez vous rendre compte que le régime en place est loin de pouvoir s'inscrire dans la logique de faire organiser les élections en République démocratique du Congo.
Ces histoires-là, les fronts 2016, ce n'est pas très clair. Personnellement, tant que Congolais, nous devons nous appuyer à ce que le président de la République, Joseph Kabila, a dit. C'est le dialogue. Nous tous, c'est le dialogue. Le reste là, il ne faut pas distraire les Congolais inutilement. Il n'y a que le dialogue qui va résoudre les problèmes. Au lieu de créer les histoires, vous partez ça et là, vous venez distraire les gens. Non. Moi, Joseph Mwenge Banza, c'est le dialogue.
Oui, oui, j'ai vu juste en passant sur Internet qu'il y a création de Fonds Citoyens 2016. Apparemment, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs forces dans le but de vouloir sauver la jeune démocratie en RDC.
Le Fonds Citoyen doit être présent sur l'ensemble du territoire national, car ce front est là pour l'intérêt de la nation congolaise. Donc, il doit être présent sur l'ensemble de la République. L'agenda n'est pas caché. On dit clairement, nous, c'est le respect strict de la Constitution et de l'organisation et la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Donc, il n'y a pas un agenda caché.
Ce sont les objectifs qui en sont les animateurs, tout ça. C'est parce qu'on est contre les pouvoirs en place ou parce qu'on est contre ce que les pouvoirs sont en train de faire, entre guillemets, qu'on dit qu'on soupçonne un glissement, structure et des structures concrètes de l'extérieur, mais aussi des structures qui donnent tendance à une sorte de tribalisation aussi, parce qu'on sent que ce sont les gens d'un même coin qui ont tendance à être en tête d'affiche. Alors, ça sonne déjà très mal. Nous aurons souhaité que ça soit comme ça se passe dans les partis politiques. On sait qu'il y a une représentation nationale, toutes les provinces sont représentées. Mais ici, on a tendance, il y a une majorité tribale, et ça perd même la quintessence, ça perd même la valeur.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, 52 personnes ont été inculpées dans le coup d'État manqué de septembre dernier. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été émis et 43 personnes sont déjà sous les verrous, parmi lesquelles les généraux Diendéré et Bassolé, selon la justice militaire. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Sita Sangaré, directeur de la justice militaire du Burkina.
Le juge a procédé à des inculpations, il y a des expertises, les différents rapports des experts sont arrivés, il y a eu l'autopsie qui a donné ses conclusions il y a un bout de temps. On attendait le rapport relatif au test ADN, dont ça également fait rentrer.
On parle de 2 mandats d'arrêt, dont notamment celui de Blaise Compaoré. Quel est l'autre mandat d'arrêt?
Deuxième mandat d'arrêt international concerne Hyacinthe Kafando, un adjudant-chef des forces armées qui a l'époque était chef de la garde rapprochée du président Compaoré.
Alors, l'autre mandat d'arrêt concerne bien sûr Blaise Compaoré. Hein, et ce soir, les autorités ivoiriennes, par leur porte-parole Bruno Koné, affirment qu'elles ne sont pas au courant de ce mandat d'arrêt.
Bon, moi, je ne suis pas diplomate, je suis juriste. Je sais que le mandat d'arrêt a été transmis aussi bien par Interpol que par le canal diplomatique.
Et concernant l'affaire du putsch?
Concernant l'affaire du putsch, le dossier également avance.
On parle de 52 inculpations.
Je confirme qu'il y a 52 inculpés. On a 43 qui sont détenus en ce moment. Il y a 5 qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Et il y a 4 qui ont été inculpés et laissés libres.
Pour revenir sur les tests ADN, est-ce que ça peut constituer un frein pour l'avancement du dossier?
Non, je ne pense pas parce que en réalité, les conditions dans lesquelles les corps ont été enterrés, ça a été enterré de façon très sommaire, dans des fosses peu profondes, et les corps étaient exposés à même le sol. Ajouté à cela, la longue durée, plus de 25 ans, donc vous comprenez que le temps à jouer avec les conditions de conservation des corps dans les tombes, ça n'a vraiment pas permis de conserver intact ces corps et la recherche des différents éléments. Elle n'a pas du tout été facilitée. Finalement, l'expert a conclu qu'il était impossible de tirer quoi que ce soit dedans.
Et ajoutons que, selon l'AFP, le Burkina Faso est sur le point de transmettre incessamment à la Côte d'Ivoire la demande d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré. Au Niger, à moins de 2 mois du premier scrutin, le fichier électoral pour les élections de 2016 a été remis en début de semaine à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Cette dernière souhaite un audit de l'Organisation internationale de la francophonie. Précision à Niamey de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Bien qu'il ait été audité par un cabinet national, le fichier électoral en vue des élections générales de 2016 au Niger, désormais aux mains de la Commission électorale nationale indépendante, fera l'objet d'un autre contrôle. C'est une décision de la CENI pour couper court, selon son vice-président, aux contestations dont il fait l'objet, Maître Kadri Oumarou Sanda.
Ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance, c'est pour créer les conditions de sérénité autour de la question électorale, parce que vous savez, s'il y a contestation au départ, il y aura contestation à la fin. c'est pour couper court à toutes ces contestations que la CENI, en toute indépendance, a pris la décision de confier le contrôle de ce fichier à l'OIF. Et je pense que tout le monde sera d'accord que l'OIF est l'organisme qui est à même de faire ce contrôle de manière à ce que le fichier soit accepté de tous.
Les partis politiques de l'opposition ne demandaient pas plus que cela. Amadou Boubacar Cissé est président de l'UDR Tabat, candidat à la présidentielle du 21 février prochain.
Nous sommes heureux de voir que cette CENI a eu un sursaut d'indépendance que nous saluons. Parce qu'une de nos revendications essentielles était juste de faire un audit crédible par une structure internationale qui a une réputation à défendre. Donc le fait que la CENI, contrairement à ce que le gouvernement a souhaité, ait décidé par elle-même de demander à l'OIF de faire un audit indépendant, nous paraît un gage de sérieux pour lequel nous les félicitons. Et donc, pour nous, nous faisons confiance à cette CENI. Et je pense que c'est vraiment l'attitude qu'il faut que tous les Nigériens aient aujourd'hui.
Il se pose toutefois quelques interrogations. Est-ce une prérogative de la CENI de demander un audit du fichier électoral? Quel temps va prendre cet audit alors que la CENI criait à corps et cri qu'elle devait être en disposition de ce fichier au plus grand tard le 21 décembre dernier? Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Selon un rapport du Pentagone, le groupe État islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak. Malgré cette régression due en partie aux frappes aériennes de la coalition internationale conduite par les États-Unis, le groupe djihadiste a aussi conquis de nouveaux terrains. Pour Mustapha Tossa, journaliste basé en France, l'expansion de l'État islamique reste une menace majeure et devrait être prise plus au sérieux par la communauté internationale. Il répond aux questions d'Arzouma Compaoré.
Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à faire le bilan des attaques aériennes américaines, françaises et européennes sur ces bastions et voir si réellement ces attaques ont touché les structures de commandement et de décision de l'État islamique. Donc, cette affirmation est à prendre au conditionnel. Leur ambition, elle est globale, c'est d'essayer de fédérer, de coaliser l'ensemble des groupes qui se réclament du djihadisme mondial et de les mettre sous la même bannière, celle de l'État islamique.
Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant au niveau des différentes coalitions qui existent? La Russie, les États-Unis et tout.
On s'attend à ce que la communauté internationale soit réellement sérieuse dans la lutte contre ce phénomène-là. Alors maintenant, toute la question est de savoir est-ce que le fait de se contenter uniquement de bombarder de manière aérienne les bastions de l'État islamique en Syrie et en Irak, est-ce que c'est la seule solution ? Ou bien il faut envisager d'autres pistes, y compris celle de déployer des forces terrestres pour aller combattre sur le terrain militairement la direction de Daesh. Alors on parle aussi de monter une coalition locale, sous-traiter cette guerre à des forces arabes, kurdes et pourquoi pas turques demain. Donc toutes les hypothèses sont là, sauf que il y a une seule certitude, c'est que l'action du bombardement aérien n'a pas suffi à éradiquer Daesh. Bien au contraire, l'État islamique en a profité pour s'épanouir et pour augmenter son territoire.
Qu'est-ce qui explique la difficulté de pouvoir lutter efficacement contre l'État islamique aujourd'hui?
C'est un manque de volonté internationale réelle. Alors là, les États-Unis ont été échaudés par des expériences comme celle de l'Afghanistan et de l'Irak. Les Européens sont échaudés par l'expérience libyenne. Donc il y a un manque évident de volonté militaire et politique internationale pour lutter contre Daesh. Et l'État islamique profite de cette hésitation, de cette timidité, de cette peur de déployer des forces terrestres sur des territoires comme l'Irak et la Syrie. Donc il en profite pour s'épanouir. Mais le jour où il y a une vraie volonté de combattre Daesh, je ne crois pas que Daesh soit plus dangereux que ne l'était le régime des talibans en Afghanistan ou que ne l'était Al-Qaïda. Sauf que Al-Qaïda et le on a su, et avec une fermeté et une détermination, les combattre. Et Daesh, il y a une grande hésitation internationale qui est à l'œuvre et qui empêche toute action réellement efficace pour lutter contre Daesh.
Le journaliste Mustapha Tossa, joint à Paris par Arzouma Compaoré. C'était Le Monde aujourd'hui. Merci pour votre attention. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était Daryl Smith. Et avec vous pour la présentation, Anastasie Tudiech. Restez avec nous. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour l'info 24 heures sur 24.